À la une, la panne générale d'électricité à Moréa et ses conséquences, le photovoltaïque et un nouvel appel à projet. Et puis ces nouvelles de Paris, Muay Thai Brotherson est satisfait de sa visite, vous l'entendrez. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Lucie, on commence par ce délai, 22h.
C'est le temps qu'il a fallu à Moréa pour rétablir son réseau électrique. Vous le savez, dès mardi soir, le courant a été coupé et ça a duré longtemps, 22h donc. Ce n'est que hier après-midi, entre 14 et 16h, que la panne a pu être réparée. Une panne qui a paralysé toute la vie de l'île. Les magasins n'ont pas pu ouvrir, les stations-service fermées, les réseaux de téléphonie et d'eau potable ont été très perturbés. Aux natifs, Vodafone et la Polynésienne des Eaux sont intervenus sur place. Les pompiers ont dû aller au chevet des malades hospitalisés à domicile. Beaucoup ont craint pour leurs appareils électriques ou leurs produits frais. Bref, 22h très éprouvante et très agaçante pour certains qui notent que les dysfonctionnements s'enchaînent sur le réseau depuis que la mairie l'a confié à un établissement public local. Tevayari, une habitante de Temé, explique que les variations de tension sont quotidiennes et les pannes de courant récurrentes ces derniers mois.
Il y en a peut-être trois par an, ou du moins sur toute la partie, sur la moitié de l'île, ou voilà. Et là, c'est la première de l'année 2025, mais en 2024, je dis trois, mais si ça se trouve, il y en a eu plus que ça. Je crois que la maximum, c'était 3-4 heures peut-être, où ça dure des fois 5 minutes, des fois 20 minutes, mais là, une comme ça, non. Ce que je comprends pas, c'est que là, la mairie, ils ont changé EDT pour EPIC, ils ont voulu faire des économies, et au final, le service, il est vraiment nul, quoi.
Et les pics en question, c'est bien sûr Teitoro no Morea Mayao. Il est au centre de beaucoup de critiques sur sa gestion technique, mais aussi sa facturation. C'est cette nouvelle structure que la mairie avait choisie en 2023 pour assurer la gestion de la production et la distribution de l'électricité en lieu et place d'EDT. Alors les pics manqueraient-ils de compétences et d'expérience? Non, assure le maire de la commune, Evans Haumani, pour qui ce blackout n'était ni prévisible ni évitable. Le problème n'est pas venu de la mécanique de la centrale de Vaiare, ni de la gestion du réseau dans l'île, mais d'un système d'alerte qui empêchait de faire le lien entre les deux et que les équipes n'arrivaient pas à désactiver. Pour le Tavana, les critiques qui sont adressées à l'EPIC ou à sa mairie sont injustifiées.
C'est l'EDT qui ramasse tout avant. Mais maintenant que l'EPIC l'a repris, c'est normal, les gens ils critiquent à chaque fois. Ils ne sont jamais contents. C'est comme une voiture, quand tu achètes une voiture. Quand il y a une voiture qui est tombée en panne, il faut acheter des pièces. Mais là, le problème qu'on a eu, c'est la première fois. Hein.
Un problème qui était donc une première d'après le maire et qui a nécessité l'intervention d'EDT pour être réparé. L'ancien gestionnaire a envoyé en urgence hier matin 4 de ses techniciens qui connaissent très bien le réseau et la centrale de Lille pour y avoir travaillé pendant plusieurs années. Une opération de solidarité et en dehors de tout cadre contractuel, précise la filiale d'Engie. Beaucoup d'habitants l'ont d'ailleurs appelé au retour aux commandes du réseau de Moréa. Alors la mairie regrette-t-elle son choix de l'EPIC? La question a tendance à agacer Evans Haumani. Écoutez.
Mais c'est pas notre faute. Je te dis, mais le problème, je vous dis franchement le problème, quand on a lancé le marché, EDT, ils n'ont même pas répondu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que nous, on prend. Mais ce n'est pas la commune qui a pris, hein, c'est l'EPIC. Comme EDT, ils n'ont même pas répondu le marché. Mais ben voilà le résultat, on ne regrette pas. Si au moins ils ont répondu le marché, c'est toujours eux. Il ne faut pas qu'eux, ils disent des excuses, ce n'est pas notre faute. Hein.
Voilà en tout cas la version de l'histoire du maire de Moréa, qui n'est pas celle d'EDT, qui, elle, avait jugé l'appel d'offres irréalisable. Aucun concurrent n'avait d'ailleurs poussé une offre jusqu'au bout de la procédure. La filiale d'Engie avait bien essayé de discuter de ce cahier des charges avec la mairie, mais sans succès. Bref, ce grand blackout ne devrait pas marquer la fin de l'EPIC Teitoro no Moréa Mayao, mais il pourrait être regardé de près par d'autres communes candidates à la mise en régie de leur réseau ou par les électeurs à un an des municipales.
L'électricité est revenue, mais la vie normale, pas encore.
Pas complètement, du moins, puisque les écoles primaires et les collèges restent fermés à Moréa aujourd'hui. Des raisons logistiques, car la restauration scolaire ne peut pas être assurée. Les denrées stockées ont été perdues après une rupture de la chaîne du froid. Et puis la panne n'est pas tout à fait réglée, car cette alerte anti-incendie au cœur du problème a simplement été désactivée. La centrale est donc en gestion manuelle, ce qui oblige l'EPIC à effectuer des gardes permanentes en attendant de pouvoir repasser en automatique. Et le retour à la normale devrait d'ailleurs encore impliquer Engie dans les jours à venir. Et ce sont des centaines de particuliers et de professionnels qui demandent aujourd'hui réparation pour les produits frais perdus, les appareils grillés et autres électroménagers endommagés par les baisses et pics de tension du réseau. L'EPIC a promis des gestes commerciaux et son directeur au micro de TNTV a assuré qu'un conseil d'administration se tiendra sur la question des dommages.
Il est 7h05, Lucie en parle maintenant de ce nouvel appel à projet pour d'autres fermes photovoltaïques.
Oui, alors que les quatre grandes premières centrales du pays ont été reliées au réseau entre novembre et décembre, le gouvernement s'apprête à publier un nouvel appel à projet. Cette deuxième tranche est très attendue, elle a été reportée une première fois fin 2023 pour prendre le temps de discuter du cahier des charges. Et pour parfaire la préparation de la procédure, de nouvelles règles du jeu ont été adoptées hier en Conseil des ministres. Et s'il y a un mot à retenir de ce nouvel arrêté, Charlie René, c'est celui de coactivité.
Oui, coactivité sur le foncier de ces fermes. Le gouvernement ne veut pas que des terrains soient monopolisés par les panneaux solaires et les promoteurs sont plus que jamais incités à leur trouver une double valorisation. Alors il y a bien sûr l'option de l'agrivoltaïque qui avait été exploitée dans la première fournée de fermes. Les Sioux avaient surélevé leurs panneaux pour laisser paître les vaches à Taravao. Les Moux avaient installé une partie de leur centrale sur des serres pour faire pousser du café ou de la vanille à Mataya. Mais la coactivité, cela peut aussi passer par l'installation de ces grandes fermes sur la toiture de bâtiments, de hangars ou en ombrière sur des parkings. Des solutions qui devront être finement étudiées puisqu'elles constitueront 50% de la note finale des promoteurs dans l'appel à projet.
Un appel à projet qui ne visera que le nord de Tahiti entre Atimaono et Faone, d'abord parce que cette zone est plus proche de la zone urbaine de Papeete qui est le centre de la consommation et aussi parce qu'elle est couverte par le réseau 90 000 volts de la TEP, contrairement à Taravao et à la Presqu'île dont le réseau de transport est déjà presque saturé. Finalement, la seule question qui reste en suspens avant l'appel d'offres, Charlie, c'est celle du stockage.
Et oui, car l'énergie photovoltaïque est par essence intermittente et soumise aux caprices de la météo. Elle nécessite donc des capacités de stockage, ne serait-ce que pour lisser la production dans l'heure ou dans la journée. Les quatre premières fermes étaient équipées de volumineuses batteries qui représentaient une part importante de l'investissement et de l'ingénierie. Alors forcément, ceux qui ont déjà développé ce genre de projet aimeraient que les règles soient les mêmes pour la deuxième fournée, mais de plus petits acteurs préféraient se libérer de ce problème et que ces capacités de stockage soient installées directement sur le réseau par la TEP. Quel choix a fait le pays ? Ce n'est que dans le cahier des charges de l'appel à projet qu'on aura la réponse.
Voilà un cahier des charges qui doit être publié dans le courant du mois de février.
Je suis pas confiant.
On part maintenant à Paris où Moïtei Brotherson s'est entretenu avec le Premier ministre, Lucie.
Oui, le son est parti un peu vite, mais c'est bien ce sujet-là. Un balayage des sujets politiques et un tour d'horizon de la situation dans la région. Ce sont les sujets qui ont été abordés par le président du pays avec François Bayrou. Moïtei Brotherson repart satisfait de son déplacement à Paris, mais pas complètement rassuré. L'une de ses mauvaises nouvelles est notamment la baisse du financement côté État du contrat de développement et de transition pour les communes. Si le président du pays avait été rassuré après avoir vu Manuel Valls, il attend toujours une confirmation ferme, mais elle tarde à venir du côté de Bercy.
Je ne suis pas confiant puisque tous les ministres que j'ai vus ont bien noté quelles étaient nos demandes, ont bien noté quels étaient nos enjeux, notamment par rapport à l'organisation des Jeux du Pacifique en 2027, dont une partie est liée à l'exécution de ces contrats de développement et de transition. Je pense que voilà, tout le monde a bien saisi les enjeux.
Et il pleuvait beaucoup à Paris, comme vous l'avez entendu. François Bayrou pourrait venir en Polynésie chercher le soleil avant la fin de la mandature. Et puis Moïtei Brotherson a rencontré le président de la République lors de la décoration du haut commissaire. On vous en a parlé hier, Eric Spitz a été fait commandeur de l'Ordre National du Mérite et il a reçu son insigne des mains d'Emmanuel Macron. Le président Brotherson a également annoncé avoir invité la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à participer au prochain forum des îles du Pacifique qui aura lieu en septembre aux îles Salomon.
On reste à Paris ou on va au Sénat cette fois ?
Oui, en pleine étude du budget Outre-mer, le Sénat a adopté hier un amendement déposé par Teva Rofritsch et Lana Tetuanui. Ce texte prolonge de 3 ans le délai de dépôt devant le CIVEN des demandes d'indemnisation des ayants droit des victimes du nucléaire décédées avant 2019. Un délai qui devrait arriver à échéance le 31 décembre 2024 et dont le prolongement est soutenu par le gouvernement Bayrou. A noter qu'il n'existe pas de date limite pour le dépôt des dossiers par les victimes elles-mêmes.
En bref, dans l'actualité, record battu pour le tourisme.
Ils ont été plus de 260 000 à visiter la Polynésie en 2024. C'est 0,8% de plus qu'en 2023. Une année qui avait déjà battu le record historique de l'an 2000. Le nombre de nuitées touristiques est lui aussi en augmentation de plus de 4%. Mais les chiffres du mois de décembre sont en revanche en léger retrait, sans que l'on sache si ce point noir était attribué à la grève de la frappe ou à un ralentissement à plus long terme.
Le gouvernement veut organiser une journée polynésienne du don d'organes.
Et c'est prévu pour le 26 avril. avril prochain. L'idée est de sensibiliser la population à la cause et essayer de lutter contre les idées reçues. Voilà, je vais y arriver. Le Conseil des ministres rappelle que la seule greffe réalisable localement est la greffe du rein, mais elle reste confrontée à une réticence accrue aux Fénois en raison de croyances et traditions bien ancrées. Et à noter aussi que les célébrations du Nouvel An chinois commencent ce soir avec l'illumination des lanternes chinoises suspendues dans la rue Colette, un événement qui marque le coup d'envoi des festivités de l'année du serpent de bois. Ce sera à partir de 17h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie, on passe à la météo maintenant sur Radio.